I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch. Aujourd'hui, on va parler de Falcon and Winter Soldier. La page WandaVision est tournée. Je suis Patrick Béja et celui qui réussit dernière minute comme dans un film de Marvel à reconnecter son internet, c'est Johan. Comment ça va, Johan ?
Eh ben ça va, je savais que j'avais acquis de nouvelles capacités, tu vois, donc ça y est.
tu as été tel Tony Stark qui
manipule les probabilités.
C'est ça. Voilà. Super. Bah, écoute, WandaVision, c'était très sympa. On en a parlé. Si vous n'avez pas écouté les épisodes et que vous débarquez pour Falcon et Winter Soldier, bah, on a fait des débriefs de tous les épisodes de WandaVision jusqu'ici. Donc, c'est les épisodes précédents. Mais maintenant, on se lance dans une nouvelle série. Hein, ça s'enchaîne du côté de Disney+. Et on a Falcon et Winter Soldier, le premier épisode qui a été diffusé. Je sais que vous êtes nombreux à attendre notre retour dessus. Donc, on va pas se faire attendre plus longtemps. Johan, ton impression générale sur le premier épisode, et puis on va rentrer dans les détails après.
Eh ben, vraiment agréablement surpris. J'ai passé un excellent moment en compagnie de Falcon et de Barnes, c'est ça, Barnes ?
Ouais, Bucky Barnes, exactement.
Bucky. Et je trouve ça très très bien, en fait. Il y a quelques faiblesses par-ci, par-là, mais bon, rien n'est jamais parfait, comme on dit. Mais non, très très bonne première impression. Ça commence très en douceur. On n'a pas vraiment de piste sur vraiment ce qui se passe. Enfin, c'est très.
On ne sait pas où ça va aller, en fait. C'est
voilà,
ça.
On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça concerne pas encore complètement nos deux héros. Et du coup, et moi j'aime bien cette ambiance là, en fait.
Ouais. Je pense qu'on peut diviser le premier épisode en trois parties. La première, c'était la grosse scène d'action au début. Et puis, il y a ensuite le parcours, le chemin, l'examen psychologique de l'état de Falcon et de Winter Soldier, donc de Sam Wilson et de Bucky Barnes, James Bucky Barnes. Et c'est vraiment très... J'ai entendu plusieurs retours de gens qui pensaient que c'était un peu chiant et que c'était trop passif. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé que cette très longue deuxième partie avec les parcours des deux héros était hyper bien menée et qu'au contraire, c'était hyper bon de nous montrer même plus que leur motivation, leur état d'esprit et où ils sont pour que on soit impliqué dans le parcours qu'ils vont suivre ensuite, quoi. Et en plus, c'est des moments que j'ai trouvé, en fait, moi, ce à quoi je m'attendais pas, c'était des moments émotionnellement aussi forts. Et on va y revenir dans une minute, mais ça, c'est le truc que j'attendais pas. Et pour les deux, c'est des moments vraiment forts et c'est pas juste. On a l'impression, en fait, que Marvel ne gâche rien. They don't waste anything. C'est des trucs qui ont chaque morceau de scène a plusieurs fonctions. Ça vous montre où ils sont, les personnages. Et en plus de ça, ça construit un truc qui va déclencher quelque chose dans une scène finale de leur arc de cet épisode, quoi.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est que pour moi, ça allait vraiment avec les promesses de Marvel sur la création de ces séries-là, quoi. Pouvoir explorer en profondeur des personnages qui ne sont pas forcément au premier plan, au tout premier plan des gros films de cinéma, qui sont quand même des formats, on va dire, entre 1h30 et 2h30,
ouais,
qui permettent pas, en fait, d'explorer autant ces personnages-là. Déjà que je trouve qu'ils ils explorent pas forcément assez loin les personnages principaux. Là, je trouve que ces personnages-là, qui sont normalement secondaires, on gagne encore plus en profondeur quasiment que les personnages qu'on a l'habitude de voir en principal dans les films. Et donc, c'était cette promesse-là qui me plaisait, et je trouve qu'ils remplissent là le contrat, mais super bien, quoi.
Ouais, c'est vrai que pour le coup, on a eu 20 minutes de character study sur chacun des deux persos, ce qui est, on a plus de compréhension de qui ils sont que pour des personnages principaux, peut-être, d'autres films. Mais alors bon, passons du coup à la partie de l'épisode lui-même. Première scène, alors on met de côté la scène où Sam se prépare à rendre le bouclier de Captain America, mais première scène, c'est une scène d'action qui était... c'est marrant parce que ça fait un petit peu miroir avec celle de Winter Soldier, où on a Batroc, le Leaper, qui est un Français, qui est joué par un Canadien dans, les films, et il a son bon accent. Ils ont tous des accents un petit peu bizarres, mais bon... Et c'est une scène d'action qui est quand même... je veux dire, on verrait ça comme l'une des scènes d'action set-piece d'un film, ça aurait pas à rougir, quoi.
Ouais, ouais. C'est vraiment de très haute volée, dans tous les sens du terme. Vraiment, superbe scène. Là, je trouve qu'ils ont vraiment mis le paquet, là. Je sais pas, en termes de budget, le pourcentage que représente cette scène, juste cette scène sur la série entière, mais... j'ai l'impression que c'est quand même assez costaud.
Ouais, clairement, ils y sont allés avec les vols entre les hélicoptères. On passe d'un hélicoptère à l'autre. Bon, on met de côté le fait que tous ces méchants, ils ont quand même plein d'hélicoptères et ils en envoient un à la fois pour qu'on puisse... Bon, bref. Et puis, le truc hyper impressionnant avec les squirrel suits, là, les costumes d'écureuils volants, comme dans... Mario 3, c'était très impressionnant. Et puis il y a la scène avec le Winter Soldier après, qui est dans le passé et qui est franchement assez imposante aussi, même si elle n'est pas aussi explosive et impressionnante. Moi, je l'ai trouvée assez intéressante aussi. Et puis surtout, il y a le poids du truc qui se passe à la fin qu'on découvre ensuite. Et puis, ouais, vas-y.
Non, j'acquiesçais effectivement. Ouais. C'est vraiment les deux entrées en matière assez costauds, et c'est vrai que juste après, le rythme, tout va redescendre d'un gros cran, et on va passer plutôt du coup effectivement à l'étude en fait du mental
des personnages. J'ai beaucoup aimé le fait que on ait eu ces grosses scènes, cette grosse scène d'action au début. Comme ça, c'était genre ok. Vous venez dans un film Marvel, dans un truc Marvel, vous voulez de l'action, on vous la donne, ça y est, hop, voilà, vous avez votre truc d'action, et maintenant on peut passer à autre chose. Et je l'ai adoré, cette scène d'action, mais je crois qu'il y a une grosse erreur que font beaucoup de gens en se disant « Ah, c'est que des films d'action ». C'est pas vrai. L'essentiel, comme le disent tous les créateurs de chez Marvel, et souvent des trucs qui sont relatifs aux comics, l'important, c'est les personnages. Et ça a été très, très vrai dans tous les films Marvel. C'est les personnages qui sont importants. Sans ça, les scènes d'action n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc, je suis content qu'on ait pu expédier ça. Je fais une note aussi pour faire remarquer que, à l'origine, Falcon et Winter Soldier étaient censés être la première série qui était diffusée sur Disney+. Et du coup, ça peut-être éclairer la construction de la série d'une manière un petit peu différente. Elle était conçue comme quelque chose d'un petit peu plus classique par rapport au film Disney habituel que la série WandaVision. Mais du coup, peut-être qu'on peut prendre en parallèle, l'un après l'autre plutôt, la partie sur l'étude de personnages de Sam Wilson et de Winter Soldier et de Bucky Barnes. Je dirais même qu'on peut commencer par Bucky Barnes parce que celle de Sam Wilson est pour moi un petit peu plus lourde émotionnellement. Ouais. T'es d'accord ?
Complètement d'accord, ouais.
Du coup, c'est quand même pas rien, celle de Winter Soldier. Il a cette scène qui est hyper bien filmée, j'ai trouvé, dans le bureau de la psychologue, de la psychanalyste qui le suit, avec ses gros, gros plans très, très proches, filmés du dessus. Et il y a un équilibre hyper bien mené qui se... Comment dire, c'est à la fois bien écrit et bien réalisé pour avoir à la fois de l'humour, et puis on comprend que Bucky Barnes, il est dans une situation qu'on n'avait pas vraiment mesurée avant. Le fait qu'il a été, depuis sa chute du train avec Captain America dans la Deuxième Guerre mondiale, il a été réveillé toutes les quelques années pour aller faire une mission d'exécution. Et c'est tout. Et il a 106 ans maintenant. Et il a été un vraiment... Enfin, j'ai appris d'ailleurs qu'un soldat d'hiver, c'est un nom qui existe déjà, qui est pour parler d'un soldat qui va de guerre en guerre sans s'arrêter. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment... Il a été de conflit en conflit. Il a eu un peu de temps au Wakanda, comme il le dit. Mais c'est tout. Sinon, il a été en mode lavage de cerveau et je tue des gens depuis des décennies. Et du coup, on comprend que le passage du date avec la serveuse de sushi, là, la nana qui tient le restaurant, bah, c'est pas facile, quoi. Et quand elle dit, rigole, c'est mignon, elle dit « Oh, je lis dans tes pensées », tu vois, tu le vois qui recule un peu, qui dit « Non, mais c'est... non, ne le fais pas, quoi ». Et tu comprends qu'il peut pas. C'est pas drôle pour lui.
Ou même le fait qu'il donne son vrai âge et qu'elle, elle rigole comme si c'était vraiment une blague, quoi. Et... Bon, bah, tu peux pas y croire.
Ouais.
Et tu vois le retour sur son visage suite justement cette femme qui rigole. Tu vois, il y a un espèce de tic qui montre que c'est nul en fait, quoi. Il puisse pas finalement parler de ce qu'il est vraiment et que soit ça sera trop irréaliste, soit ça sera trop effrayant. Et soit pour son bras, tu vois, elle lui pose aussi une question sur ses gants et il finit par dire qu'il a juste un problème de circulation, etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il lui manque un bras et que. Et ouais, tu vois, c'est vraiment, c'est, je trouve ça intéressant, ouais, justement, que se rendre compte qu'effectivement, il peut pas vraiment parler de lui et qu'il a du mal, là, du coup, à se lier finalement à de nouvelles personnes, quoi, dans ce nouveau monde.
C'est ce que lui dit sa psy, qui est très très bien d'ailleurs, et qui dit, moi j'étais un ancien soldat, je sais ce que c'est que de côtoyer la mort, et la seule chose dont on n'a pas envie, c'est d'être seul, quoi. Mais lui, il n'arrive pas, il ignore les textes de Sam, il a personne, il a aucun ami, enfin, et il replonge un tout petit peu, enfin, tu sens qu'il est sur l'équilibre entre je replonge un peu dans ce monde de violence et non, et ouais, c'est très difficile. Et d'ailleurs, à propos de l'âge, quand il dit, quand son ami, entre guillemets, lui dit, ah, tous les gens qui sont morts avaient moins de 90 ans, et lui dit, ah, so young, tellement jeune. Et bah oui, c'est vrai en plus, tu vois, pour lui, qui a 106 ans. Et donc, moi, j'ai trouvé cette scène, justement, du date hyper, hyper touchante. Enfin, non, j'exagère, c'est pas non plus, mais vraiment, ça te donne un éclairage sur le personnage qu'on n'avait certainement pas eu avant. Et puis après, bah, on a le reveal, quand il va revoir son ami, c'est Nakajima, je crois. Qui parle de son fils à plusieurs reprises, qui est mort et il ne sait pas pourquoi. Et quand la nana dit la même chose, le truc qui est le plus difficile, et quand tu te rends compte que c'est celui qui l'avait tué dans la mission qu'on a vue au début, c'est en ce sens que tout sert à plusieurs choses. Cette scène, elle sert à nous montrer qui était le soldat de l'hiver. Et... En plus de ça, ça nous revient à la gueule après. Et comme ça sert à nous montrer qui était le soldat de l'hiver et que c'est une scène d'action cool, bah on trouve ça cool et on fait pas attention au fait qu'il y a en plus ce type qui le tue à la fin. Évidemment, notre cerveau l'enregistre, mais on comprend pas que ça va être tellement important. Et quand ça te revient dans la gueule ensuite, quand tu comprends que c'est le fils du type et qu'en fait, il essaye de... On sait même pas de faire quoi, parce que qu'est-ce qu'il va dire ? C'est ça qui est terrible, ouais. c'est une situation complètement tragique dont il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut rien faire.
Du coup, ce qu'on voit chez la psy, c'est qu'il a constitué des listes de choses pour s'amender, hein, pour du coup, effectivement, trouver le pardon, je suppose, que ce soit auprès du gouvernement ou auprès de lui-même, en fait. Donc, il a une partie de sa liste qui semble être des gens qui l'ont utilisé à différentes époques. Donc on voit une scène assez drôle où justement on montre comment est-ce qu'il fait, du coup il piège cette dame qu'il a utilisée je sais pas quand et qui
c'est pas qu'il... Ouais, c'est pas qu'elle l'a utilisée, c'est qu'il l'a aidé, il a aidé à la mettre en place et qu'elle a continué en plus quand Hydra est tombée, elle a continué à abuser de son pouvoir, donc bon, il l'a fait arrêter, quoi.
Ouais, il l'a fait arrêter, puis avec un grand sourire et, très très factice, et qui lui dit je ne suis plus soldat d'hiver, je suis, enfin ouais, il y a vraiment ce côté justement de regagner son identité. Et moi, ce que j'imagine, c'est qu'il a aussi sa liste perso, du coup, de gens qu'il a tués.
Ah oui, c'est ça, oui.
Et je suppose, moi, c'est comme ça que j'ai interprété, c'est que probablement qu'il a voulu, du coup, trouver ce père pour lui dire, bah voilà, j'ai tué votre fils, j'étais le soldat de l'hiver, je suis maintenant Bucky Barnes, je suis désolé, machin, tu vois, quelque chose comme ça.
Ouais.
Quelque chose qu'il n'a jamais pu dire et qu'il n'a jamais réussi à dire. Et il commence à se lier d'amitié, donc il commence à avoir une amitié avec,
ouais.
avec ce personnage-là. Et là, il va être, je suppose, torturé entre dire à la fois, parce qu'on comprend hein, que ce qui torture le plus ce père, c'est de ne pas savoir en fait les tenants et aboutissants de la mort de son fils. Et donc lui, il a ces informations-là, donc il pourrait justement lui donner cette chose qui lui manque tant. Mais s'il le fait, clairement, il perd du coup cette amitié.
Ben c'est même plus que ça. Non seulement il le perd, mais est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose ? Moi, je pense pas. Tu vois, s'il le disait et que ça aiderait le père à faire son deuil, bah peut-être qu'il le ferait direct. Mais c'est pas que ça. Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Il sait pas. Est-ce que... Et bien sûr, ça va. C'est difficile pour lui-même d'admettre que c'est lui qui a causé cette peine et ce. Enfin, c'est tragique. C'est tragique. Donc oui, voilà pour le soldat de l'hiver. Et puis, de l'autre côté, Sam Wilson, d'ailleurs c'est James Buchanan Barnes, son vrai nom, Buchanan. Voilà pour le soldat de l'hiver. Moi, bref, on verra, on spéculera peut-être pour les prochains épisodes, mais pour Sam Wilson, il y a un passage qui est assez comiquement intéressant en Tunis. Comment il s'appelle, Joachim Torres, qui, ouais. Alors là, c'est un petit truc pour les gens qui lisent pas les comics, mais Joachim Torres, en fait, c'est un sidekick de Falcon qui devient Falcon quand Sam Wilson devient le Captain America. Donc, il risque de devenir Falcon à un moment, peut-être. Donc ça, c'est juste le petit truc à noter. Mais après, il va chez sa sœur en Louisiane, c'est ça, je crois ?
Ouais, alors avant, il faut le préciser, c'est que du coup, on a eu cette super mission d'action, effectivement, le retour à Tunis, mais derrière, il va rendre le bouclier de Captain America.
Ah mais oui, quel con, bien sûr.
qui est une scène que je trouve... Tu sens tout le poids quand même hein, dans cette scène
ouais.
où du coup il donne son interprétation de ce qu'est être Captain America et de la symbolique du bouclier. Et donc lui, il est toujours resté campé sur finalement sa position à la fin de Endgame, hein, que ce bouclier ne lui appartient pas. Donc il le rend au musée qu'on a déjà vu dans Captain America 2, je crois.
Ouais, Winter Soldier, ouais, exactement.
Ouais.
C'est le Smithsonian, je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a, je connais pas, j'oublie toujours son nom, mais le
Rhodey.
War Machine. Voilà, c'est ça, Rhodey. Et là aussi, et il va y avoir voilà une interaction que je trouve vraiment super entre ces deux persos où Rhodey essaye tant bien que mal de le faire prendre conscience qu'il est tout à fait capable de prendre ce manteau du Captain America. Et comme on l'a vu dans la scène d'action juste avant. Clairement, hein, il a cette étoffe-là. Et du coup, bah, ça se finira juste sur le bouclier qui est enfermé dans ce musée-là.
Et il y a à un moment dans une scène, l'un des responsables, qui est peut-être un parlementaire ou un sénateur ou un ministre, on ne sait pas trop, qui lui dit « Merci d'avoir fait le choix de... Enfin, merci de nous avoir rendu le bouclier, c'était le bon choix. » Genre, ils ont dû le contacter pour lui dire qu'il voulait le bouclier et il avait le choix de le redonner ou pas, quoi. Mais ouais, c'est évidemment un moment hyper, hyper lourd parce que c'est Steve Rogers qui lui a donné le bouclier et qui lui a dit « c'est le tien maintenant, tu dois continuer le symbole ». Et lui, il choisit de ne pas le faire. Et évidemment, ça a des conséquences lourdes après. Et c'est vrai que cette scène est hyper... Parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, en fait. Quand il prend le bouclier, il met son costume et tout. Et quand il commence son discours, on pense que c'est juste juste un discours pour rendre hommage à Steve Rogers. Et d'ailleurs, personne ne sait où il est. Et Joachim Torres dit « Est-ce qu'il est sur la Lune ?» On a dit qu'il y a des rumeurs qu'il est sur la Lune, blablabla. On parlera des Flag Smashers juste après, mais c'est un moment qui est effectivement assez lourd. Et du coup, Sam rentre chez sa famille, enfin sa famille, sa sœur et ses deux petits-neveux qui sont beaucoup plus grands que quand il avait disparu. Et ils sont dans une situation compliquée parce que il y a l'histoire du bateau qu'elle n'arrive pas à maintenir, qu'elle veut revendre. Et Sam essaye de la convaincre de ne pas le revendre et d'avoir un plan. Il a un plan pour consolider les prêts et pour l'aider. Et du coup, ils vont à la banque et ils pensent pouvoir avoir un prêt assez facilement vu ses données financières. Évidemment, il se passe ce qu'on imagine qui va se passer. Bah, ça passe pas.
Ouais. Alors ça, cette scène-là, j'ai eu un peu de mal. Voilà, elle m'a un peu posé ce problème parce que j'ai vraiment du mal à croire en fait à cette situation-là d'un Avenger qui n'arrive pas à emprunter de quoi réparer un bateau. Ça me semble un peu forcé, on va dire, comme situation. Plein de raisons, que ce soit. Enfin, les arguments qui sont donnés, hein, c'est que bah, du coup, il est absent, il a été effacé de la réalité pendant 5 ans, du coup, il n'a pas de revenus depuis les 5 dernières années. On peut aussi imaginer le fait qu'il était un renégat du gouvernement. Il était, il était dans la team.
Dans la team Captain America au moment de Civil War, ouais, tout à fait.
Voilà, du coup, il était, comment on considérait comme rogue, c'est ça,
ouais.
En français.
Renégat, tout simplement.
Ouais, voilà, traître, etc. Donc, bon, il peut y avoir un passif qui fait qu'il peut avoir des difficultés, mais bon, voilà. À part ça, je pense que quand...
Il y a aussi le fait que, oui, d'accord, c'est un Avengers, machin, mais il y a deux choses. D'une part, le fait qu'avec le retour de tous les gens qui ont été blippés, il y a énormément de gens qui demandent des prêts et qui essayent de... Tu vois, c'est plus les mêmes conditions, c'est ce qu'il dit. Le banquier un peu connard, il dit, oui, mais c'est plus les mêmes conditions qu'avant. Oui, vous qualifiez sur les anciennes conditions, mais maintenant, c'est plus la même chose, quoi. Donc, d'une part, il y a ça. Et d'autre part, il y a ce regard dans ce que font... les super-héros dans leur temps libre, en quelque sorte, qui ils sont en temps normal. Et ok, c'est un Avenger, mais comment il gagne sa vie? Qu'est-ce qu'il y avait Stark qui payait pour tout le monde à l'époque où il était là, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'où vient son argent? C'est un mec, quoi. C'est un mec qui met un costume d'oiseau et qui va voler pour taper des terroristes. Parfois, ils font des trucs bien, parfois, ils font des trucs pas bien. Peut-être qu'il peut emprunter 20 000 dollars. Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord.
Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un de connu, il peut écrire des livres, il peut faire plein de choses. Enfin, cette situation de galère.
Ouais, je comprends.
J'ai du mal à y croire. Mais alors, je suis d'accord avec toi que c'est bien présenté. Tu réfléchis pas, ça peut passer. Mais j'avoue que moi, ça m'a un petit peu bloqué. Du coup, j'ai forcément tout de suite pensé à toutes les solutions qu'il pourrait trouver pour cet argent, quoi.
C'est sûr qu'il pourrait effectivement... il a des trucs à vendre, quoi. Il pourrait très facilement écrire un livre ou... je suis d'accord. Il peut trouver 20 000 balles, c'est vrai. Mais ça serait moins dramatique, tu vois, dans la narration du truc. Il va à la banque, il fait « Oh, Falcon, tiens, voilà un chèque de 100 000 dollars. Oh, super! Bon, bah écoute, voilà, problème est réglé, ok. » mais bon, donc voilà, il y a aussi... bon, parlons ensuite des Flag Smashers. Qui sont, en fait, dans les comics, il y a un super vilain qui s'appelle Flag Smasher, qui a en fait un petit peu la même philosophie, qui pense que les pays ne devraient pas exister et qu'il devrait y avoir une seule nation terrestre. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le briseur de drapeaux. Et bon, c'est un super vilain mineur, mais là, ils l'ont repris dans un mouvement un petit peu en ligne, qui est assez intelligent. Ils pensent que le monde était meilleur pendant le blip, et donc il faut qu'il n'y ait pas d'identité nationale, individuelle, et que tout le monde travaille ensemble. Bon, on peut comprendre pourquoi ça plairait à certains, comme le dit Joaquim Torres. Mais ils volent de l'argent dans une banque en Suisse, évidemment. C'est toujours en Suisse qu'on va quand on veut voler des billets.
Là où il y a l'argent, hein.
Ouais, évidemment. Je suis pas certain qu'ils aient des tonnes de billets encore dans les banques. Mais bon, bref. Encore que, il faut bien les mettre quelque part. Et donc, on voit l'un des... Certains... Enfin, à un moment, ils disent « Ah, c'est lui le leader ». Moi, j'ai pas l'impression que ça soit le leader. Mais bon, il y a plein de petits trucs qu'on va pas spoiler. Mais il y a des trucs avec le Power Broker, qui est une entité qui serait peut-être derrière tout ça. Il y a plein de petites choses qu'on verra se dévoiler au fur et à mesure des épisodes. Mais donc, Joachim voit envoie les images à Sam qui dit « Ok, surveille la situation. » Quelque chose à dire sur les Flag Smashers ou on attend que ça se développe?
La chose très notable, c'est qu'il y a l'un d'entre eux au moins qui a l'air d'avoir des super-pouvoirs. Quoi. Enfin,
oui, évidemment, oui. Tout à fait. Le entre guillemets, leader, clairement, il est très très fort pour quelqu'un de normal, on va dire. Il envoie les gens balader un petit peu trop loin. Donc ça, c'est intéressant à noter. Et évidemment, on avait vu que il y avait plusieurs tentatives de recréer la formule du sérum qui a créé Captain America. Et il y avait eu plusieurs soldats de l'hiver, comme on l'avait vu dans Civil War. Et donc, il n'y a pas que Bucky Barnes qui est le soldat de l'hiver. Il y en avait d'autres qui, du coup, eux, sont morts. Mais ça montre bien qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu d'autres personnes qui ont eu des droits à des injections de super sérum ou un truc dérivé ou un truc dilué ou Dieu sait quoi. Mais oui, c'est effectivement un truc à surveiller, quoi. Et j'aime bien l'aspect... L'aspect un petit peu Anonymous, tu sais, c'est le truc qu'on fait avec... un petit peu comme Pokémon Go, tu sais. On trouve des trucs en réalité augmentée dans
ouais,
les
villes. Ça m'a pas convaincu non plus, hein, c'était ça. Peu importe où tu es, t'as un logo quelque part.
C'est ça, bon, il en a trouvé un, mais bon, si tu, quand t'en trouves un, t'as des petites notes, tu peux les collectionner, tu peux devenir le chef du gymnase, tu vois, ce genre de choses. Mais j'ai trouvé ça sympa, l'idée que ça soit genre un truc en ligne. C'est toujours dans les Captain America très en phase avec le monde réel. Et autant, il y a 2 ans, je t'aurais peut-être dit, non, mais c'est quand même, ou 4 ou 5 ans, c'est quand même un peu, tu vois, des gens qui vont suivre ces mouvements comme ça. Et encore que tu peux comprendre pourquoi ils suivraient ces mouvements, mais autant maintenant quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années avec certains mouvements en ligne et conspirationnistes, tu dis oui, bah oui, en fait, tout à fait, ça peut marcher. Mais ouais, donc c'était intéressant. Sam lui dit à Joachim qu'il doit surveiller la situation, mais d'un peu loin, et ils se tiennent au courant, et puis là, sa sœur rentre dans la chambre et lui dit « Sam, regarde ce qui se passe à la télé. » Et là, le choc.
Et là, le twist de l'épisode. Du coup, on en retrouve la personne avec qui discutait
Sam.
Sam.
T'arrives vraiment pas à retenir son nom.
Ouais, j'ai du mal. D'ailleurs, c'est vu qu'il a des neveux, c'est l'oncle Sam. Et du coup, forcément, fait pour être Captain America. Bon, bref, il y a cette personne du musée, et la personne du musée qui parle du coup, effectivement.
Enfin, du musée, qui est un parlementaire
ouais,
qui était au musée.
C'est ça, en fait. Je sais pas s'il est pas à la défense ou enfin,
sans doute oui pas, oui
super saisi mais qui annonce du coup en grande pompe voilà le monde a besoin d'un nouveau symbole de liberté et on vous présente le nouveau Captain America
et là
on a du coup quelqu'un qui apparaît. Donc d'abord il est filmé de dos en tenue complète de Captain America avec le bouclier qui avait été ramené par Sam et on découvre son visage. Et c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout.
Alors en fait, si on connaît les comics, on ouais, connaît un petit peu. Mais avant de parler de ça, je veux juste dire 2 mots sur la scène en elle-même, parce qu'elle est hyper bien filmée, je trouve, hyper bien réalisée. Parce que petit à petit, au début, tu ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Tu vois juste un mec, bon, OK, il est devant un podium, et il est en train de parler. Puis tu comprends petit à petit. Et ce qui est en train de se passer se forme dans ton esprit, peu à peu, comme il se forme dans l'esprit de Sam. Et en quelques secondes, tu comprends ce qui va arriver. Et donc, au bout de ces quelques secondes, tu sais ce qui va arriver. Et du coup, tu attends que ça arrive. Et tu es dans cette situation d'angoisse parce que tu sais que ça va arriver et ce que ça veut dire pour Sam qui a dû abandonner le bouclier et qui du coup se retrouve complètement, c'est plus que trahi, c'est poignardé vraiment dans son émotion. Et tu vois ses mains qui se referment, sa tension qui est palpable et il est déjà trop tard en fait. C'est comme un petit peu pour ce qui se passe avec Bucky Barnes, avec le Winter Soldier. Tu peux, c'est tragique parce que tu peux rien faire, c'est fini, c'est trop tard. Tu peux pas arranger la situation d'une manière significative. Et là, c'est pareil avec Sam. C'est fini, c'est déjà arrivé en fait. Et alors évidemment, qu'est-ce que tu peux faire? Je suis sûr que tu vas pouvoir faire des trucs, mais dans le moment, c'est fini. Tu t'es fait avoir, ou en tout cas, ils ont trahi ce que tu espérais voir arriver, ce que tu exprimais, et c'est trop tard. Et cet aspect tragique, moi, m'a vraiment marqué comme étant une partie brillante de la manière dont le premier épisode, en tout cas, j'allais dire la série, mais le premier épisode est écrit et réalisé parce que ça te met complètement dans les pompes de ces personnages au moment où ça se passe, quoi.
Ouais. Et puis là, l'acting du coup de l'acteur est, enfin, je trouve vraiment super sur ce moment-là. Ouais, on sent vraiment, on le voit se déconfier en fait petit à petit au cours de l'annonce, et puis vraiment se résigner complètement, comme tu disais, à l'annonce.
Ouais.
Voilà, on comprend là que du coup, lui, il a fait le don du bouclier pour un certain nombre d'idéaux et d'idées. Et voilà, il comprend tout de suite que le gouvernement réutilise le bouclier immédiatement en prenant probablement un pion voilà, qui sera obéissant, entre guillemets, contrairement à l'autre Captain America. au gouvernement américain. Voilà, la question qui me restait, c'était de savoir si ce Captain America là, est-ce que c'est un super soldat du coup.
Ouais.
Donc, je sais que dans les comics ça a été le cas, etc., mais bon, là,
ouais, bah, on peut se poser la question,
on peut se poser la question, mais effectivement ça augure rien de bon pour moi. C'est certain, on a clairement un agent effectivement du gouvernement américain avec le manteau de Captain America, et il y a très peu de chances, même s'il a des bonnes intentions, qu'il soit aussi du coup aussi droit et que l'ancien capitaine.
Ouais. Il y a deux choses en fait qui sont marquantes là-dedans. D'une part, ce qu'on comprend un petit peu en sous-texte, et je suis sûr qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus clair, c'est que d'une part, tout ce qu'ils expriment avec l'histoire de la banque, c'est que il y a une histoire, enfin un fond de racisme dans le truc. Alors c'est pas 100% sûr, mais on peut pas je crois qu'il est difficile d'ignorer l'idée que s'il était pas noir, peut-être qu'il aurait son prêt plus facilement, et que même en tant que super-héros machin, il l'a pas. Mais bon, là on peut encore, d'ailleurs même le banquier dit non mais attendez, c'est pas ça, c'est juste que les choses ont changé, on a 50% de la population qui est revenue, etc. Mais ça colore un petit peu quand même la manière dont ça se passe pour eux dans cette ville. Et puis, quand on révèle que le Captain America est un mec blanc un petit peu comme Steve Rogers, pour moi, il est impossible de pas se dire « Alors oui, d'accord, Sam Wilson, il était un renégat, il a été contre le gouvernement peut-être à plusieurs reprises, donc oui, ça pourrait être une raison pour laquelle il voulait pas en faire le nouveau Captain America. » Mais il n'empêche qu'on peut aussi se dire « Écoute, on a besoin d'un nouveau Captain America. Toi, t'es pas de la bonne couleur. On va prendre un bon Wasp qui est bien blanc, et ça va être le symbole de l'Amérique. » Et du coup, quand je disais il y a quelques semaines ou la semaine dernière, j'espérais qu'il fasse au moins, tu vois, une petite référence à un hashtag Not My Captain machin. Je trouve que là, c'est encore plus subtilement fait, parce que ça peut complètement s'expliquer. Tu peux complètement imaginer que ça se passe comme ça. Et il y a cette sous-tendance qui est difficile à ignorer, quoi. Surinterprète.
Ouais, forcément, moi j'y ai pensé, donc pour les auditeurs, je suis noir, pour ceux qui ne savent pas. Donc moi, c'est vraiment une thématique du coup qui me tient extrêmement à cœur. Donc j'y ai forcément pensé. Après, j'ai pas énormément confiance en
Marvel,
pour traiter ça, on va dire, de manière satisfaisante pour moi. Ma théorie, c'est que c'est en sous-texte pour faire ce clin d'œil et dire oui, on sait, tu vois.
Pour ceux qui veulent voir et qui, ouais.
Voilà, mais que ça sera pas plus traité que ça. Là, entre guillemets, pour du Marvel, ok, tu vois, soit. Ça, je peux être d'accord avec ça. J'ai un peu peur que ça soit traité un peu plus en avant et que ça soit pour le coup mal traité. On verra. Je veux pas faire de procès d'intention. J'ai noté que c'était là. Je pense pas que ça soit le focus. Hein. Clairement, pour moi,
je pense pas non plus. Je t'avoue.
Ça va être dans le ressenti des personnages, exactement comme la sœur a finalement fait une remarque un petit peu qui insinuait le fait. Ah oui, ça retombe sur nous, avec le nous un peu entre guillemets, nous les noirs, quoi.
Ouais.
Et c'est là que le banquier se défend. Mais je pense ça suffisant pour donner du poids, on va dire, à, justement au ressenti qu'ont les personnages, à essayer de trouver de l'empathie pour Sam, pour sa sœur, etc. Je pense pas qu'ils aillent plus loin que ça. Je pense qu'on
ça
va
me surprendrait un peu aussi.
Autre chose. Ouais. Voilà.
Ouais. Donc bon, enfin c'est notable quand même, mais on verra comment ça évolue. Et au-delà de ça, le personnage de John Walker, qui a un nom de whisky, qui s'est aussi appelé comment, il avait un autre nom de whisky à un moment. Donc c'est le nouveau Captain America, qui est un personnage vraiment intéressant en fait. C'est un petit peu le pendant de Steve Rogers en tant que Captain America. Il a été choisi pour être Captain America dans les comics aussi à un moment où Steve Rogers était occupé à faire d'autres choses. Et c'est le pendant. Comment dire, le Steve Rogers, c'est le bon côté du patriotisme qu'ils ont très bien réussi à faire accepter dans les films, je trouve, parce que aujourd'hui ça paraît évident, mais faire accepter un truc qui s'appelle Captain America qui est habillé du drapeau américain, c'était pas évident hein, que ça passe aujourd'hui et dans un public international, mais ils y arrivent, ils y sont très bien arrivés. Et ben de la même manière, John Walker, le nouveau Captain America, c'est, on va dire, le mauvais côté du patriotisme. C'est le type qui ne sourcillerait pas trop sur des questions de camp d'internement ou ce genre de choses. C'est pas non plus un super vilain. C'est pas un type qui est, comment dire, qui est un méchant méchant. Mais c'est le type qui croit un petit peu plus en la police que en les super-héros, on va dire. Et je ne sais pas si je lui fais justice, il s'appelle US Agent, souvent, dans les comics. Ce n'est pas un personnage majeur, mais il est vraiment, voilà, c'est le Captain America, genre comme on pourrait l'imaginer, hyper, hyper droit, hyper conservateur, qui, quand... enfin. C'est pas je tire d'abord et je pose les questions après. Au contraire, c'est genre on suit la loi absolument et tous ceux qui suivent pas, c'est pas Judge Dredd, mais c'est plus Judge Dredd que Steve Rogers qui lui essaye de voir en lui-même si ce que dit le gouvernement est en accord avec ce qui est juste. J'ai l'impression que je le connais pas très très bien, John Walker, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus bon. Bah le gouvernement l'a dit, donc c'est comme ça quoi. Et il se pose pas ni de questions à lui-même ni de questions vraiment de morale. C'est une lecture beaucoup plus beaucoup plus, comment dire, judiciaire, ou non, même pas judiciaire, mais le exécutif de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, là où Steve Rogers, généralement, n'utilise pas d'armes à feu, il a fait de son symbole le bouclier. C'est pas tellement dit dans les films, mais dans les comics, c'est très clair. Son symbole, c'est le bouclier, parce qu'il veut que son symbole soit un truc de protection. On le voit d'ailleurs dans l'introduction dans la série. John Walker, il a un pistolet. Il a un pistolet à la ceinture dans son holster. Ouais. Donc c'est, oui, il a le bouclier, mais tu vois, il déconne pas quoi. C'est le genre avec qui il faut pas rigoler. Donc voilà un petit peu pour US Agent. En même temps, dans les comics, encore une fois, c'est un personnage qui est pas non plus, c'est pas, bah, je l'ai dit en plaisantant, mais c'est pas Judge Dredd. C'est pas genre je suis la loi, vous faites. Il est un petit peu, il est utilisé également par le gouvernement. Et lui, il veut... disons qu'il est bien intentionné à la base. C'est juste qu'il a peut-être une lecture un petit peu trop littérale de ce qu'on lui dit de faire, on va dire. Mais...
oui, il va être obéissant, en fait. C'est ça, je pense que c'est ça le principal. Il est obéissant et selon le dirigeant, on sait que ça peut être OK ou vraiment pas OK du tout, surtout dans ce genre de film ou de série.
C'est plus un militaire.
On a déjà la preuve. En plus, on a déjà la preuve que du coup, ce gouvernement-là, de la défense, ont pas des méthodes super cool, quoi, puisque ils ont un peu manipulé Sam pour rendre le bouclier dans un musée. Donc c'est quand même pas rien. Et puis derrière, juste après, le récupérer. Donc, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est foncièrement pas cool en fait avec ce qui est en train de se passer, et ça donne pas des bonnes bases pour essayer d'apprécier ce personnage. Ici, tu vois, si ça se trouve, on va découvrir qu'il est super cool. Enfin, mais on sait jamais. Tu vois, il va rejoindre le duo et puis tout va bien se passer.
Bah, c'est même pas impossible. Hein. John Walker, comme je disais, c'est pas un méchant. Il est pas du tout impossible qu'à un moment, alors il est parfois gentil, parfois méchant. C'est un petit peu comme Agatha Harkness. On sait pas très bien de quel côté elle se situe. Bah là, c'est pas qu'on sait pas de quel côté elle se situe, mais c'est pas qu'il est là pour foutre la merde, c'est qu'il est là parce que on est sans doute venu le voir et lui dire, écoute, on a besoin d'un nouveau Captain America, toi t'es un militaire, ta carrière est impeccable, machin, si c'est un militaire dans la série, dans les comics, je suis pas sûr que ça soit le cas, mais donc, est-ce que tu le veux? Et lui dit, bah oui, je sers mon pays, je fais le salut au drapeau, très bien, moi je suis là, moi, aucun problème. Il n'est pas certain qu'il soit en train de se frotter les mains en se disant « Ah, j'ai arnaqué Sam Wilson », tu vois. Donc, à voir comment ils vont le développer. Ça pourrait vraiment aller dans les deux directions. Mais clairement, le fait de convaincre Sam de rendre le bouclier pour le mettre dans le musée, et que parce qu'ils auraient pu lui dire « Bon, tu nous le rends, on le garde dans les stocks de l'armée », et voilà. Et ils n'étaient pas obligés de lui dire qu'ils allaient l'exposer au musée et ensuite le ressortir ailleurs, quoi. Donc, c'est pas des bonnes bases, c'est sûr. Donc bon, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Je suis très curieux de voir où ça va aller, en particulier avec John Walker que j'attendais pas du tout. C'était une vraie surprise de le voir arriver en fin de série, tant pour en tant que fan de Marvel que pour le choc de Sam Wilson. Et donc je suis très curieux de voir où ça va aller avec Flag Smasher, avec le Power Broker, avec Zemo qui revient aussi. Il y a plein de choses et c'est uniquement 6 épisodes cette série-là. Donc ça va avancer assez vite.
J'ai des grands épisodes quoi, de 45 minutes a priori. En tout cas, si c'est comme c'est le ça. Premier.
J'imagine que ça sera le cas. 45, c'est juste normal, quoi. Ça me frustre qu'avec toutes les séries Marvel et les séries Disney, plutôt, qui durent genre 25 minutes pour certaines, on trouve que 45, c'est des gros épisodes. Non, c'est des épisodes normaux. Un mot pour conclure, est-ce que tu as un espoir pour la suite ou on en a déjà parlé au début, mais si tu veux conclure.
Ouais, non, mais moi, mon espoir, c'est que ça continue, on va dire, à être... que la série prenne le temps, continue à prendre le temps de montrer les personnages. Parce que là, du coup, effectivement, on en a eu deux, mais on sait qu'il y en a d'autres qui arrivent, comme Zemo que tu as cité. J'espère que ces personnages-là auront aussi le droit à ces moments-là qui nous permettent en fait, d'avoir de l'empathie pour leur cause, pour tu sais, qu'on comprenne, on va dire, leur motivation. Ouais, c'est ce que j'espère de la série, maintenant que j'ai vu pour ce premier épisode. Rapanois de la bagarre, hein.
c'est sûr.
J'adore la bagarre de super-héros, je vais le redire, mais comme tu disais, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pour moi, c'est d'avoir des personnages que j'aime bien et de les voir interagir entre eux et de comprendre ce qu'ils ressentent. Et la bagarre, après, elle vient normalement après pour appuyer ces choses-là. Donc voilà, j'espère que j'aime bien le mix de ce premier épisode. J'espère qu'on aura voilà un équilibre un petit peu de ce type-là pour la suite.
Je suis d'accord. Je trouve que l'équilibre était bon. Alors un petit peu plus de bagarre, un petit peu moins de bagarre, ça serait après on peut faire varier les potentiomètres. Mais je trouve que l'équilibre était bon là et que avec tous les trucs qui nous restent à voir dans la série, j'imagine que les 5 épisodes à venir seront assez pleins également. Donc à voir. Bon bah merci de nous avoir suivis dans ce premier débrief de Falcon and Winter Soldier. On sera de retour dans une semaine quand vous aurez vu le prochain épisode, l'épisode 2 qui arrive dans quelques jours seulement quand vous écouterez cet épisode. Donc on est avec vous sur toute la durée, till the end of the line comme le dit notre ami Steve. Et on découvrira toutes les surprises qu'il nous réserve ensemble. Si vous voulez nous parler en attendant le prochain épisode, où est-ce qu'on peut le faire Johan, sur Twitter par exemple?
Eh ben, on peut le faire sur Twitter, sur mon Twitter name qui est @yoant_.
@yoant_, il sera dans les notes de l'émission, comme le sera Note Patrick, qui est mon nom Twitter aussi. Et si vous voulez vous joindre à nous pour ces discussions endiablées, vous pouvez aller sur le Discord, dont le lien est sur notepatrick.com. Vous pouvez aller sur le Discord où on discute du dernier épisode de Super Laser Punch. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à le faire sur le Discord. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain. Ciao, ciao.